Mon cher Hugues, pourquoi les chansons et les musiques sont-elles absentes du podcast ?
Ah, c'est une question de droit d'auteur, mon cher Rudy. On vous donne le teaser, mais l'action complète, c'est sur ovio.be.
Donc ici, c'est une sorte d'avant-goût. Et là-bas, sur ovio.be, c'est le festival complet.
La première.
19h-20h.
La semaine des 5 heures.
Hugues Daillé, Rudy Léonet.
Ding dong, comme disait Brotherhood of Man.
C'est vrai qu'il disait ça. On peut encore dire Joyeuse Pâques.
Mais évidemment.
Oui, mais bonsoir, mon cher Rudy. Et l'odeur du chocolat attiré en ce studio, Laurent Nélissen, qui se dit, bon, il y a sûrement encore...
Surnommé Goulaf.
Il y a sûrement encore 2-3 non-neufs qui restent.
Ouais.
Voilà.
Chocolat au lait ou chocolat noir? Praliné? Les deux? Tout? Blanc ouais. Aussi?
Tout.
Attends. Ah, pas blanc. Ah oui, donc ça fait partie de la secte de ceux qui disent le chocolat blanc, ce n'est pas du chocolat. C'est une imitation de chocolat. Oh, je peux comprendre.
Ah,
vous goulaf également.
Tout.
Ouais. Même l'emballage.
Oui, j'ai encore des traces, comme on disait, de papier d'argent. Vous appelez aussi ça papier d'argent.
Du
papier d'argent.
Je l'ai lissé. L'ai retourné côté argenté, pas côté couleur. Et je me les mettais sur les dents pour faire un peu... vous savez dans James Bond.
Oui.
Jaws.
Oui, Richard Keel.
Oui.
Mais écoutez, je crois qu'on a déjà bien fait de faire cette émission parce qu'elle est déjà d'ores et déjà passionnante.
Elle est déjà riche.
Oui.
Très, très.
Mais écoutez, plus sérieusement, aujourd'hui, on va aborder l'actualité cinéma et les films qui vont débouler ce mercredi en salle. Non sans avoir ouvert, naturellement. On respecte la tradition, même un lundi de Pâques, avec une découverte musicale
oui,
de votre
cru. On peut dire ça. Voilà. Souvenez-vous, on l'avait évoqué, le concert filmé par Jonathan Demme des Talking Heads,
oui.
Stop Making Sense, a bénéficié pour ses 40 ans d'une restauration, un gonflage en 4K. Et la société de production et de distribution A24 s'est lancée pour la première fois dans la production discographique. Et ils ont donc mis en chantier un disque, un album...
Ils se prennent carrément pour SKG.
Oui, mais ils font des tas de...
Spielberg, Katzenberg, Geffen, qui avaient fait cette association, théoriquement, pour dominer tout, ouais. Hein, le cinéma d'animation, ouais. La musique, et puis... Ouais.
Ils ont surtout dominé leur burn-out, ouais. Je crois, après cette expérience.
Ouais.
Non, mais chez A24, ils sont très très malins. Je ne sais pas si vous prenez parfois la peine d'aller voir les boutiques du merchandising ou de... Alors, chez A24, ils sont trop, trop forts pour Iron Claw, le film avec Zac Efron. Ils ont sorti une figurine, action figure, avec Zac Efron en catcheur.
Ah ouais.
Oui, ils fabriquent aussi des bougies, par exemple, avec des thématiques qui sont celles de certains films. Et donc,
les films d'horreur religieux, j'imagine.
Aussi. Ouais, ouais. Voilà, donc ils sont très, très...
Et donc, ils sortent des disques.
Très inventifs.
Maintenant.
Et là, donc, ils sortent au compte-goutte des chansons qui sont à chaque fois des reprises de Talking Heads, époque Stop Making Sense.
Okay.
Et une fois que toutes ces chansons auront été publiées individuellement, ça donnera un album qui va compiler toutes les chansons de l'album d'il y a 40 ans, mais toutes revues et corrigées avec un nouveau point de vue. Et ici, c'est la chanteuse australienne Lord qui s'y colle. Lord, dont on n'a plus entendu grand-chose depuis un bon moment, et elle se fend d'une revisitation, une relecture de la chanson de Talking Heads, forcément, Take Me to the River, et c'est Lord. Take Me to the River.
Ah, je me souviens que dans le le film de Jonathan Demme, les choristes noirs s'en donnaient à cœur joie sur ce morceau.
C'est une reprise de Al Green, je vois.
Oui, oui, c'est un standard plutôt, plutôt gospel, quoi. Et d'ailleurs, je vous disais, dans le film, c'est une des scènes d'anthologie de films de Jonathan Demme. On a vraiment les choristes noirs qui sont essentiels à la partition avec David Byrne.
Et donc on est dans une mise en abîme, c'est une reprise de la reprise des Talking Heads.
Voilà, exactement.
Actualité
cinéma. Alors il y a parfois des conjonctions de facteurs comme ça. On a un troisième film qui arrive sur le monde scolaire. On a déjà eu Amal avec Lumna Azabal, film extrêmement fort sur l'intégrisme, la montée de l'intégrisme dans une classe. On a eu La salle des profs, récemment, un film allemand qui a été nommé à l'Oscar du meilleur film en langue étrangère, où là c'était une professeure, et ici c'est un jeune professeur dans un film français qui s'intitule Pas de vagues au pluriel. On découvre un jeune professeur de français, Julien, incarné par François Civil. Bah, François Civil, on vient de le voir mouiller sa chemise en dentelle dans Les Trois Mousquetaires. C'est lui qui jouait D'Artagnan dans les deux volets. Avant ça, on l'a vu dans le cinéma de Cédric Clapiche, un jeune garçon souriant et sympathique. Il était entre autres dans le dernier film de Clapiche qui s'appelait Encore, en deux mots, sur la résilience d'une jeune danseuse. Et donc voilà François Civil qui joue ce personnage de Julien et qui est encore plein d'idéal pour de son métier et qui se rend bien compte que capter l'attention des ados, c'est de plus en plus difficile. Et sans vouloir faire copain avec eux, malgré tout, il essaye d'un petit peu connaître leur vie et tout. Et avec certains d'entre eux, il va carrément manger un bout. Il va manger un bout au kebab du coin. Il leur offre, il dit c'est pas grave, je paye l'addition. Et ils sont à 6 ou 7 et ils discutent le coup. Et il est en face d'une des jeunes étudiantes, Leslie, qui est très très timide, très introvertie. Et puis, lors d'un cours sur la poésie de Ronsard, il explique toute la thématique de séduction de Ronsard et il apostrophe Leslie en disant « Tiens, si j'étais Ronsard, eh bien, je te dirais ceci. » Et il explique des figures de style. Et patatras,
je vois venir le camion
et patatras,
en frontal.
Patatras, ouais. Évidemment. La jeune fille, sans mot dire, mais écrit et remet une lettre comme quoi elle est harcelée par les avances de son professeur. Ce qui se passe, c'est que Julien est en fait homosexuel, mais il n'a absolument pas dit à sa direction ni à ses élèves en disant que c'est sa vie privée, ça ne les concerne pas. Et donc, ce qui aurait pu désamorcer immédiatement les soupçons, il n'utilise pas cet argument parce qu'il veut vraiment sauvegarder sa vie privée.
Et nous, spectateurs, n'avons aucun doute sur sa démarche. C'est très clair qu'en fait, il a aucun doute.
Aucun doute.
Donc, c'est pas une parole contre une autre ici.
Non.
On a juste une mauvaise interprétation.
Absolument.
Et une instrumentalisation d'un moment.
Voilà, exactement, d'un moment. Et donc, évidemment, convocation avec le responsable de l'école, face à face avec le professeur et l'élève. L'élève ne dit mot, elle reste enfermée dans son silence, elle se contente de sa lettre. Et on dit, on va téléphoner à ton père. Il n'y a pas de père, il y a une mère, mais il y a un frère aîné qui a pris la place du père. Et le frère aîné est une brute épaisse, c'est un voyou qui visiblement la terrorise à domicile. Et donc non seulement Julien va se retrouver avec cette enquête, cette suspicion sur son mode d'enseignement, mais en plus à la sortie de l'école, il y a le frère qui l'attend et qui lui fait des menaces de mort. Donc on est dans une situation absolument explosive. Pourquoi ça s'appelle pas de vague au pluriel? Eh bien parce que le responsable du collège, on ne dit pas qu'il veut étouffer l'affaire, mais en tout cas veut la minimiser un maximum pour ne pas entacher la réputation de l'école. Et sa consigne par rapport aux jeunes professeurs, c'est surtout pas de vagues. C'est absolument insupportable, que les choses soient claires. On est très très, comment dire, on est nerveux en voyant le film parce que on se dit mais c'est tellement réaliste, et c'est d'autant plus réaliste que le réalisateur Teddy Lucie Modeste, il s'appelle comme ça, Teddy Lucie, trait d'union Modeste, eh bien, a eu une expérience de prof comme celle-là. Et donc s'est inspiré de sa propre expérience, lointaine, hein, mais comme Thomas Lilti a une expérience de médecin qu'il met dans ses films sur la médecine. Donc ça sent le vécu. Il a travaillé son scénario avec Audrey Diwan, la réalisatrice qui avait eu le Lion d'Or avec le film L'Événement, d'après Annie Ernaux. Donc il y a eu un point de vue à la fois masculin et féminin qui ont été développés lors de l'écriture du scénario. Et très aimant, je veux dire, on en sort, enfin, c'est filmé de manière très 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 tendue, très nerveuse, et effectivement on se pose énormément de questions parce que la manière dont tout flambe comme de l'étoupe, et la manière aussi dont la discussion, puisque c'est une fois encore comme dans la salle des profs, c'est un jeune professeur pas encore bien connu de ses collègues. Donc certains collègues qui sont là depuis très longtemps, qui ont tout
choisissent
vu,
leur camp.
Choisissent leur camp et aussi sont un petit peu condescendants à dire bah, « de toute façon, en gros, tu l'as bien cherché à vouloir faire copain-copain avec les élèves, c'est pas la bonne méthode ». Voilà, donc il y a plusieurs problèmes qui sont mis sur la table. Je trouve que François Civil, qui je trouve un acteur... Bah, c'est plutôt utilisé comme jeune premier. Bah, là, il a forcément un rôle un peu moins lisse et, j'ai envie de dire, un peu plus intéressant.
Vous évoquiez beaucoup de questionnements. J'ai quand même une question à laquelle vous n'êtes pas obligé de répondre si ça évente l'intérêt du film. Mais on a compris les conséquences, mais la cause, pourquoi elle raconte ça? Si c'est avéré que c'est faux, elle a mal interprété la situation, ou il y a autre chose, un non-dit?
Le point d'interrogation existera toujours, parce que l'intelligence du début du scénario, c'est que cette fille ne parle pas, ne dit rien, elle est complètement enfermée en elle-même. Alors, est-ce qu'elle sait imaginer des choses? Est-ce que surtout, elle ne peut pas se rétracter parce que quelque part, elle vit un enfer à domicile? Voilà. Et donc, toute la mise en place de la situation est vraiment intéressante. Alors, je ne vais évidemment pas aller plus loin dans l'intrigue. J'avais évoqué par rapport à la salle des profs que je trouvais que la fin était trop ouverte. Ici, il y a une fin qui est satisfaisante, qui laisse encore pas mal de questions, mais qui nous laisse une fois de plus face à un constat extrêmement terrifiant. Et il est très clair que, enfin, en France, il y a eu le cataclysme de l'affaire Samuel Paty, de ce professeur carrément mis à mort. Et il y a eu d'autres affaires depuis. Et Dieu sait que dans beaucoup de domaines, on parle de la libération de la parole. Eh bien, là aussi, c'est-à-dire que aujourd'hui, on sent bien qu'il y a énormément de professeurs et le corps enseignant a besoin de s'exprimer par rapport au manque de moyens, au manque d'encadrement et la difficulté d'exercer correctement ce métier aujourd'hui. Donc, c'est un film, je trouve, qui a pas mal de qualités, même s'il est terriblement, terriblement décourageant à certains moments dans le constat qu'il pose. Mais voilà, le cinéma sert aussi à ça. Ça s'intitule « Pas de vagues » et on donnera volontiers... On donne des bulletins cette semaine-ci, si on est dans le monde. Eh bien, on donne deux bulletins pour ce pas de vague de Teddy Lucie Modeste. Et donc, c'est une des sorties. Probablement, ça fait pas mal de remous en France, bien évidemment, mais ça aura probablement un écho en Belgique aussi, puisque Amal, dont je parlais, est sorti en France et a également une résonance en France, puisque les problèmes, sans être identiques, sont quand même comparables.
Oui, trouve un écho. Voilà. D'ailleurs. Voilà. Bah, c'est normal que... Enfin, qu'à l'inverse du titre du film, que ça fasse des vagues, puisque l'idée, c'est quand même aussi d'en parler et d'en débattre et d'ouvrir aussi un dialogue.
Voilà. Et donc un rôle certainement important pour François Civil.
Vous m'avez donné envie, mon cher Hugues. En revanche, un album qui arrive et qui, à la base, ne m'avait pas donné envie, c'est celui de... J'adore les chansons, mais son premier grand disque vient d'arriver, son premier album, c'est une chanteuse canadienne de Toronto, elle s'appelle Abby sage. Alors, est-ce qu'on dit Seiji ou sage? Enfin, elle s'appelle Ebi Sage, voilà. Et son album a pour nom The Rot, à savoir la pourriture. Ouais, je me suis dit, mais enfin, Ebi...
Allez, quoi.
A1, mais quand même.
Ouais.
Oui, oui. Rien à voir, les chansons restent de facture très, très douce et chantées sur une tonalité très, très enveloppante.
Et voilà, d'où vient cette pourriture?
Je ne sais pas, mais c'est le titre de son album. D'accord. Elle sera le 18 mai au Botanique pour présenter cet album. Mais surtout, je voulais évoquer le fait qu'elle enregistre cette fille de Toronto sur un label canadien qui s'appelle Network. Et ce label, il y a un peu plus de 25 ans, s'est retrouvé à la tête d'une véritable petite fortune grâce à Bill Clinton et à une des chanteuses...
Qui a utilisé un morceau pour sa campagne électorale.
Ah, pas du tout.
Non.
Et grâce à une des chanteuses de chez Network, une Canadienne qui est toujours en activité aujourd'hui, qui s'appelle Sarah McLachlan, parce qu'au moment où Bill Clinton a dû déposer dans l'affaire Monica Lewinsky, il raconte, et oui, nous sommes entrés dans le bureau, je me suis servi un whisky, j'ai mis notre album préféré avec la chanson que nous aimons tant de Sarah McLachlan, et du coup... Cette chanteuse a bénéficié d'un focus de dingue à cause d'une déposition de Bill Clinton, alors que c'est juste une chanteuse folk canadienne. Et les ventes ont totalement, à l'époque on ne parlait pas de streaming, mais les ventes ont littéralement explosé autour de cette chanteuse, ce qui a fait la fortune de son label, qui est aussi celui de Ebi Sage, Sage, qui sera le 18 mai au Botanique. Ebi Sage, sa chanson a pour titre Milk.
Alors, on reste dans le cinéma français, mais on change de genre avec une comédie qui s'intitule « Et plus si affinité ». Alors, c'est de plus en plus fréquent dans le cinéma français de comédie, et j'ai envie de dire de consommation courante, c'est qu'il y a des producteurs qui se disent « Mais pourquoi ne pas faire des remakes, non pas de films américains, mais de films européens qui... soit sont parvenus de façon confidentielle, soit ne parviennent pas chez nous. Et ici, c'est le remake d'un film espagnol qui s'appelait Sentimental, d'un cinéaste qui avait fait un film absolument formidable, il s'appelle Cesc Gai, le cinéaste, il vient de Barcelone. Il avait fait ce film Truman, vous vous souvenez peut-être de deux vieux amis, un ami qui revenait voir son vieux copain en Espagne, et ce vieux copain était atteint d'une maladie et se préparait à partir, et son chien qui s'appelait Truman, sa principale angoisse c'était
oui.
À qui est-ce que je vais donner mon chien qui lui est en très bonne santé.
Oui, je me souviens
avec,
du pitch.
Avec un acteur argentin, Ricardo Darín, qui est absolument formidable. Si vous n'avez pas vu ça, mettez-le dans votre liste, parce que Truman, c'est une merveille. Donc, je me dis, oula, remake d'un film de Cesc Gai, Sentimental, ça peut être intéressant. J'ai été fort déçu. Je m'explique. Ça parle de quoi? Et plus si...
Bon, ouais, alors... Attendez, ça a super bien démarré. Vous nous le vendez,
oui,
là.
Oui,
je
me
dis, moi, j'achète. Je demande même pas c'est combien.
Oui, non,
j'achète.
Mais...
Et puis après...
Oui. Alors, c'est quoi?
Et coitus si... interrompus.
C'est quoi, et plus si affinité? Eh bien, c'est l'histoire d'un couple fatigué par l'usure des années. Lui, Xavier, est joué par Bernard Campan. Elle, Sophie, est jouée par Isabelle Carré. Lui... professeur de musique, mais on sent qu'il est frustré, aigri. Bref, il ne se passe plus grand-chose entre eux. Et Sophie a décidé d'inviter leurs voisins du dessus, qui viennent d'arriver depuis quelques semaines, et qui ont l'air sympathiques, qu'elles croisent dans l'ascenseur pour faire connaissance. Lui n'a aucune envie d'avoir des gens chez lui ce soir-là, donc ça démarre déjà très très mal. Et voilà les voisins qui arrivent, Adèle et Alban, ils sont plus jeunes, ils sont pleins d'énergie, d'humour et d'enthousiasme. Elle est jouée par Julia Faure et le jeune voisin est joué par Pablo Poli, formidable acteur qu'on a vu récemment dans
À la joie.
Formidable film sur le confinement sur Arte. Donc voilà. Dîner, non pas entre amis, mais dîner entre voisins. Et pourquoi est-ce que les choses vont mal tourner? Eh bien parce que le couple usé, fatigué, se rend compte qu'il se heurte à un couple qui est très, très, très porté sur la chose et qui plus est visiblement de tendance libertine. Donc,
échangiste.
D'où le titre et plus sur raffinité. Comment tout ça va-t-il se passer? La réalisation est terriblement... C'est pas nul parce qu'il y a des bonnes répliques qui fusent. En fait, pourquoi est-ce que les réalisateurs Olivier Ducret et Wilfried Menz ont choisi le duo Campan et Carré? Parce qu'ils se connaissent comme des vieux sous. Ils ont joué une pièce de théâtre ensemble, ils ont déjà fait deux films, ils s'apprécient, ils s'entendent, et donc ils se sont dit, c'est facile, on doit tourner ce film vite fait, bien fait, on a déjà un couple qui se connaît et qui connaît bien la pratique du théâtre, et donc on va faire des répétitions et du texte, et ça va rouler comme du papier à musique. Et effectivement, on sent que le film est terriblement paresseux, parce que ça fait partie de ces comédies françaises. En gros, c'est du théâtre filmé, quoi, où tout repose sur le texte, où tout repose sur les répliques, où tout repose sur les vannes, et où les réalisateurs se contentent de filmer à deux caméras, en plan séquence, les répliques de ce quatuor. Ça dure aimablement 1h17, donc c'est vraiment... On sent que les producteurs, les réalisateurs se sont dit... On a un truc qu'on peut vite emballer, qui, si ça se trouve, va, grâce aux têtes d'affiche, va un petit peu fonctionner. Simplement, c'est bâclé, quoi. C'est bâclé parce que la dernière partie, c'est une pirouette complète. Ça se termine de manière totalement insatisfaisante.
Mais qu'est-ce qui est raté? C'est le film original à la base,
non,
ou l'adaptation?
Mais j'aimerais bien voir sentimental, évidemment, de le film originel, pour voir si justement, si dans l'adaptation, ils ont été à la facilité, parce que ça m'étonne de la part de ce cinéaste espagnol qui avait réalisé quelque chose aussi bien. Donc, voilà, mais où trouver le sentimental, je ne sais pas, mais par curiosité, j'irai bien le chercher. Toujours est-il que, voilà, on est devant ce que le cinéma français ne doit pas plus faire, c'est-à-dire, c'est du théâtre de boulevard, c'est du théâtre contemporain qui peut éventuellement fonctionner, au théâtre Édouard VII ou dans le circuit du théâtre privé à Paris, mais c'est pas nécessaire de porter ça à l'écran, quoi. Mais ça, je pense que vous voyez, c'est une espèce de... il faut toujours trouver l'origine des choses, et je pense qu'à partir du moment où on a adapté le prénom, au cinéma, qui a été un smash au théâtre, mais aussi un smash au cinéma avec Patoche, avec
Patoche,
Patrick Bruel.
Patoche,
voilà.
Ouais.
À partir du moment où les producteurs ont vu qu'on pouvait toucher le jackpot en adaptant des pièces de théâtre, entre adapter une pièce de théâtre éventuellement chère pour les droits et ce film espagnol méconnu en France, on sent l'opération un peu paresseuse. Et c'est dommage parce que Carré est une bonne actrice, Campan des Trois Inconnus est franchement celui qui sort le plus de sa zone de confort et qui fait a priori le souvent des choix plus intéressants et parfois plus dramatiques aussi. Il faut bien dire que si les Inconnus ne remontent pas sur scène, c'est parce que Campan dit non, c'est une mauvaise idée, on est vieux, on va rejouer nos vieux sketchs, on va totalement détruire ce qui a fonctionné et qui en plus est d'époque, et il bataille bec et ongle alors que Bourdon veut remonter sur scène en disant on va toucher, là aussi on va toucher facilement le jackpot et allons-y. Donc voilà, il y a une espèce, moi je respecte Campan parce que je trouve que c'est un type qui a une espèce qui garde une espèce d'intégrité et qui essaie, voilà. Et ici je pense qu'il y a surtout le plaisir de jouer avec Isabelle Carré, ils sont vraiment terriblement complices. Tant mieux pour eux, mais il ne faut pas infliger ça aux spectateurs, quoi. C'est beaucoup trop paresseux.
Vous savez, votre pitch, ça m'évoque un film d'il y a 10 ans de Noah Baumbach qui s'appelle While We Are Young, où un couple plus âgé, Ben Stiller et Naomi Watts, devenaient amis avec un couple plus jeune, Adam Driver et Amanda Seyfried, et ils couraient derrière cette espèce de jeunesse avec leurs amis plus jeunes, mais ils finissaient par s'essouffler.
Oui, c'était du cinéma. Même si ça reposait très fort sur les dialogues, il y avait des idées de cinéma. Ici, il n'y a aucune idée de cinéma. Donc, on ne parvient même pas à côté ce genre de choses, parce qu'on dit, bon, il y a un petit peu de plaisir dans certaines répliques, mais en même temps, conseiller aux gens d'aller voir ça en salle, non, c'est c'est du vol, quoi.
Ah ouais.
C'est
carrément.
Il y a pas assez de cinéma là derrière, quoi. Je trouve que ça, c'est paresseux et c'est pour ça que ça m'a terriblement énervé. Voilà. Donc ça s'intitule Et plus si affinité.
Oh, mais vous avez encore pas mal de sang-froid. Je vous ai connu quand même plus énervé.
C'est pas.
C'est le chocolat.
C'est le chocolat. Il faut que je dise.
Ah oui, mais ça calme le chocolat.
Oui, oui, oui.
Il y a des vertus.
Il a toutes les vertus. Le chocolat, c'est bien simple. Bon, et de votre côté, parce que ça ne s'arrête pas. Hein.
Mais j'avais envie de provoquer un peu une sorte de piqûre de rappel autour d'une chanteuse qui vient le 25 mai au Bota, qui s'appelle Julie Byrne, qui a quand même été acclamée de façon quasi unanime fin de l'année 2023 pour avoir amené un des meilleurs albums de l'année avec The Greater Wings. Et cette Julie Byrne,
Me souviens de ce titre d'album, tout à fait.
Plutôt que de s'infiltrer dans des festivals ou de viser des salles qui seraient plutôt à la hauteur de la réputation avec laquelle elle arrive, elle vient juste jouer au Botanique. C'est certainement, enfin quand je dis juste, c'est-à-dire dans une salle à dimension humaine et devant un public avec lequel elle pourra véritablement partager. Donc autant en profiter. Et voilà, j'étais en train de faire la liste dans les semaines qui arrivent des concerts vraiment à ne pas louper. Julie Byrne en fait partie. Et je m'apercevais que le concert était toujours pas complet. Donc c'est injuste. Donc voilà, Julie Byrne, elle sera le 25 mai au Bota avec son formidable album The Greater Wings. C'est Julie Byrne.
Ah oui.
Oui, c'est joli. Hein.
Et c'est pas. Oui. Je me souvenais de toute cette histoire. Jeunesse de son album et tout
À l'origine, historiquement, elle travaille avec son compagnon et ils voyagent et selon là où ils se posent, ils enregistrent. Et puis, il est décédé il y a plusieurs mois et donc elle a mis longtemps avant de revenir à la musique parce que c'était intimement lié à son histoire personnelle et donc elle a fini par faire cet album qui est extrêmement touchant, qui a recueilli énormément de bonnes critiques absolument partout et donc là elle arrive en concert, je pense que c'était le moment de l'accueillir comme il se doit. Elle sera le 25 mai au Bota, Julie Byrne.
Alors une troisième sortie de ce mercredi, on va vers l'Italie avec La Chimère, qui est un nouveau film de Alice Rohrwacher. Alice Rohrwacher, le film a été présenté en compétition à Cannes. Alice Rohrwacher fait partie des cinéastes chouchous du festival. Elle a eu la plupart de ses films en sélection officielle.
J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce nom italien, Rohrwacher? Son père est allemand.
Et sa sœur est actrice, Alba Rohrwacher. Sa sœur, on la voit encore cette semaine-ci donner la réplique à Guillaume Canet dans le film Hors Saison dont je vous ai parlé la semaine dernière.
Exact.
Et pourquoi est-ce qu'elle a son rond de serviette sur la croisette, Alice Rohrwacher? Pour moi, ça fait partie des épais mystères des sélections
canoises. Oui, elle a même été dans le jury.
Oui,
son rond de serviette,
d'office. Il y en a comme ça. En France, il y a Arnaud Desplechin, d'office. Il y en a qui, d'office, ont leur ticket gagnant. Et donc, elle est très, très, très bien vue. Alors, elle avait montré à Cannes un film qui s'appelait Les Merveilles, par exemple, ou encore Heureux comme Lazaro. Et c'est une cinéaste qui veut ouvertement faire un cinéma mi-réaliste, mi-onirique et avec une grande intention poétique.
Réalisme magique ?
Oui, on peut le dire. Mais en tout cas, c'est le gyrophare, c'est attention, je fais de la poésie. C'est presque autoproclamé.
Ça
se traduit déjà par...
Les gens parlent à l'envers, marchent sur la tête.
Ça se traduit déjà par un travail sur l'image, mon cher Rudy.
On est en format vertical.
Oui, on sait que certains cinéastes tiennent farouchement...
1080 par 1920, nous sommes dans un format instagrammable.
Non, tout l'inverse. Nous sommes presque dans la lanterna magica, la lanterne magique. On est beaucoup plus...
Éclairé au briquet.
Oh, Oui, on est beaucoup plus dans l'idée, je vais garder de la pellicule, mais de la pellicule du Super 16, gonflé,
gros grain.
Gros grain. On va changer de format au cours du film.
Non.
On va passer en 35 mm selon certaines séquences. Je sais pas où elle trouve encore les labos pour développer tout ça.
Et les idées.
Alors, il est question de quoi dans la chimère? La chimère. Eh bien, il est question d'un jeune homme.
Il n'y a pas une partie du film en flipbook?
Non. Ça pourrait. Il est joué par Arthur. Elle a choisi un acteur anglais. On ne sait pas pourquoi, mais il est formidable. Hein, c'est Josh O'Connor, acteur britannique qui fait partie de la génération montante et qui a eu surtout une exposition internationale avec, en jouant le prince Charles, enfin maintenant le roi Charles, ouais, mais le prince Charles jeune, dans ses jeunes années, dans les deux saisons de The Crown, où il était absolument formidable. Et donc Josh O'Connor incarne Arthur, qui revient dans une petite ville au bord de la mer tyrrhénienne et à la recherche d'un amour perdu, Benjamina. On ne saura jamais exactement ce qu'elle est devenue. Il croise la mater familias d'une grande famille qui est jouée par Isabella Rossellini. Ça, c'est aussi un garant de cachet poésie aujourd'hui. Vous prenez Isabella Rossellini en special guest appearance, en invité exceptionnel. Et il retrouve cette famille, mais il retrouve surtout une bande de tombaroli. C'est quoi les tombaroli, mon cher Rudy?
Bah alors là, vous allez me l'apprendre.
Ben oui, c'est la mission 5 heures. Que sont
ce sont des chanteuses virtuelles en hologramme.
C'est une question un peu pour le jeu des 1000 euros. Qu'est-ce que les tombaroli? Eh bien, ce sont des pilleurs de tombes. Mais des pilleurs de tombes étrusques qui recherchent des vieilles
des
sépultures.
Des vestiges, des antiquités.
Pour absolument piller les tombes et les revendre à des antiquaires ou des receleurs peu scrupuleux. Et donc, il retourne dans cette
vous
bande.
Vous pouvez vendre cette question à Walid?
Oui. C'est vrai, je vais voir ce que je peux faire. Hein? Oui, c'est une bonne idée. Pourquoi?
Et moi, je vais vendre la réponse à Raoul Reyes.
Voilà.
Comme ça, il pourra briller. L'émission où on sera posé cette question
et
piège.
Et donc les tombaroli, il rejoint cette bande et il a un don particulier, Arthur, c'est que il sait. Tel un sourcier qui détecte
Détecteur de métaux dans les doigts.
Non, il a un détecteur d'espace creux, donc il sait où il faut creuser.
Oh.
Il est comme ça, Arthur. Voilà, et donc le film est une sorte d'allégorie d'histoire d'amour perdu et d'allégorie sur le passé et le présent, c'est-à-dire le passé florissant de l'Italie qui est déterré par ces pauvres manants que sont les tombaroli, donc les pauvres qui déterrent les richesses du passé, etc. Honnêtement, on ironise, c'est pas du tout nul, il y a effectivement des trouvailles, on dirait même, pour employer un mot très pédant, il y a des fulgurances, mon cher Rudy. Il y a des moments où, effectivement, il y a des jolis moments qui se passent. Mais tout ça est complètement bordélisé dans une narration où un chat n'y retrouverait pas ses jeunes. Allez, Alice, un peu de simplicité, un peu moins de coquetterie. Et alors aussi, il y a non seulement l'image est fort vintage, mais parfois, elle est même un petit peu sale, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va attraper des punaises de lit rien qu'en regardant le film.
Avec des yeux qui saignent.
Vous voyez.
Mais c'est quand même inspirant, si je comprends. Il y a des fulgurances inspirantes.
C'est très, très canois. Elle vous dit, elle a une cote d'enfer. Il l'adore, visiblement, Thierry Frémaux et sa petite bande. Et en France, le délire autour de évidemment, dans les cahiers du cinéma, des revues bien nées. Mais là, donc voilà, elle a la carte. La carta.
La carta dell'oro.
En tout cas, moi, je ne comprends pas. Je reste médusé devant le succès de cette cinéaste. Voilà, je trouve qu'il y a honnêtement des choses, mais on a vraiment envie qu'il y ait un producteur derrière.
Je reçois un SMS qui me dit « Elle est également médusée devant votre critique », me dit-on.
Non, ne risque pas de l'écouter jamais un jour. Donc voilà, il y a naturellement aussi la présence de sa sœur dans un rôle de commissaire-priseur peu scrupuleuse. Il y a tout dans la chimère, mais il y a aussi quand même C'est à ça qu'on voit les acteurs formidables. Il y a Josh O'Connor qui parvient à s'en sortir de cette espèce de magma assez foutraque, mais il existe, quoi. C'est un formidable acteur sur lequel on peut parier. Et rien que pour lui, je donnerais quand même un bulletin pour et pour les quelques scènes où il y a des véritables envolées poétiques dans ce film. La chimère de Alice Rohrwacher qui sort donc ce mercredi. Voilà, mon cher. Voilà,
après demain, on attend quoi d'autre cette semaine ?
Demain, on attend le premier film réalisé par Dev Patel. Vous savez, le formidable acteur anglais d'origine indienne qu'on avait découvert évidemment dans Slumdog Millionaire, qu'on avait revu dans les deux Indian Palace, The Best Exotic Marigold Hotel, et aussi dans un film très très émouvant qui s'appelait Lion, où il était un enfant adopté qui recherchait ses origines. Et figurez-vous que cette fois-ci, il passe derrière la caméra.
Il est aussi chez...
Pour Monkey Man.
Et il comme réel.
Et il est chez Wes Anderson.
Il est chez l'étalagiste, oui, c'est ça.
Oui, il est chez Wes Anderson dans ses adaptations de Roald Dahl qu'on peut voir sur Netflix et qui a d'ailleurs remporté un Oscar du meilleur court-métrage pour un des films avec Benedict
Cumberbatch. Et vous l'avez rencontré.
Et je l'ai rencontré. Nice guy, donc on l'entendra demain.
Et son producteur également.
Son producteur, un de ses producteurs, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais il y a Jordan Peele qui est venu à la rescousse pour que le film puisse se terminer, parce que...
Vous lui avez dit à Jordan Peele que ses deux derniers films, c'est de la caca. Vous lui avez dit.
J'ai dit, c'est bien.
Jordan, my man.
It's really de la caca.
It's fucking de la caca.
What? What you say? Voilà. Mais on entendra tout ça demain. Et il y aura aussi un nouveau film d'un des frères Cohen, puisque pour l'instant, ils travaillent séparément. Voilà. Voilà le menu, mon cher Rudy. On écouterait encore un joli morceau.
Oui, je me suis aperçu, en fait, qu'on a été très girly aujourd'hui.
Ouais.
On a écouté Lord, on a écouté Abby Sage, on a écouté Julie Byrne. On était très canadien aussi.
Ouais. Mais le Canada,
avec Abby Sage.
Vous, le nord du pays et le Canada sont des...
Si j'ai mon visa refusé pour la Flandre, mais c'est en bonne voie.
C'est ça.
Un repli québécois possible.
Possible, très bien.
Possible. Donc on va écouter une québécoise produite par des Flamands. Comme ça, je me
c'est
dis...
vrai ?
Oui, comme ça, je me dis...
Non,
oui.
Attendez, je ne l'ai même pas imaginé. Je vous ai dit, vous aimez le nord du pays, vous aimez...
Oui.
Et puis voilà,
oui,
oh,
oui.
C'est incroyable.
Marie Davidson, qui est une jeune Canadienne, qui enregistre pour le compte du label des Frères de Wall, pour le label de Soul Wax, pour Dee Wee. Voilà. Et après un moment de pause, voilà, elle revient avec une nouvelle chanson qui a pour nom WAAM, qui sont les initiales de... C'est plus facile à lire sur les chaînes anglo-saxonnes, de « Your asses are mine ». Voilà, W-A-A-M. Donc elle s'appelle Marie Davidson, et c'est son nouveau titre sur le label « Dee Wee des frères de Wall ». La messe est dite pour aujourd'hui ?
Moi, joyeuse Pâques.
On va finir le chocolat ?
Joyeuse Pâques.
Ouais. Merci à Laurent Nélissen. Merci Laurent. On se retrouve donc demain.
Ouais, oui, avec le menu annoncé, notre ami Dev Patel.
Trop bien, j'ai trop hâte. Et donc un règlement, un face-à-face musclé avec Jordan Peele.
Bien sûr.
Bonne soirée, à demain.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.